Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Salve Regina. Paul et Rosemary vous retrouvent avec joie pour un nouveau rendez-vous de Peuple du Monde.
Amaru Cazenave, ce professionnel de l'image qui s'est converti à Thésée, est parti à la conquête du continent numérique en mettant sa créativité décalée au service de la transmission de la foi. Ses émissions d'évangélisation en ligne font le buzz. Toute mon adolescence, raconte Amaru Cazenave, j'ai mené une double vie. J'étais catholique grâce à ma mère qui m'avait très tôt emmenée à la messe à Bayonne où elle m'avait élevée seule, mon père étant parti quand j'avais 1 an et demi. Je croyais sincèrement, je pratiquais, mais il ne fallait pas trop que Dieu vienne fourrer son nez dans mes affaires ni qu'il empiète sur mon temps personnel. Je lui consacrais 1 heure le dimanche, parfois plus, et c'était déjà pas mal. Le fossé s'est creusé davantage pendant mon BTS audiovisuel, quand j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Je sentais une tension grandissante entre ma liberté, dont j'usais à ma guise, et Dieu, que je savais présent dans ma vie, et qui devait regarder d'un drôle d'œil ma conduite. J'étais de plus en plus tiraillée, divisée et incapable de combler ce manque affectif qui me faisait faire tout et n'importe quoi, surtout avec les filles. En 2004, de retour à Bayonne, après un stage à Paris, je suis directement allée voir mon ancien aumônier. J'aimais beaucoup ce prêtre. À la fin de la 4e, il m'avait enrôlée dans son petit groupe de l'aumônerie qui était vite devenu une bande de potes du lycée. Il avait repéré que je jouais du piano, que j'avais besoin de m'exprimer, si bien qu'il m'avait poussée à développer ma fibre créative. Lors des spectacles de Noël et de fin d'année qu'il organisait, je montais sur scène 1 numéro sur 2 pour faire de la musique ou des sketchs. Je m'éclatais. Bref, ce prêtre me connaissait bien. J'avais confiance en lui. C'est donc vers lui que je me suis tournée. J'ai besoin de vivre quelque chose de fort avec Dieu. S'il y a une retraite dans un monastère, ça m'intéresse. Il m'a répondu qu'il allait à Thésée pour Pâques. J'ai sauté sur l'occasion. Là, j'ai vécu un cœur à cœur de fou avec Jésus dans la prière. Cette rencontre m'a bouleversée aux larmes. J'en suis sortie avec la conscience claire d'avoir un choix à faire. Soit Dieu n'était pas si important pour moi, et dans ce cas-là, ce n'était même pas la peine d'aller à la messe le dimanche, soit il était vraiment, et donc j'avais envie de le suivre jusque dans mon quotidien. C'est une question de cohérence face à laquelle je me sentais extrêmement libre. Et c'est librement que j'ai choisi de faire sauter les cloisons et de laisser Dieu prendre toute la place. En quittant Thésée, j'étais heureux d'avoir pris cette décision. Mais une crainte me tenaillait, celle de partir un jour en vrille en me disant que ce que j'avais vécu à 20 ans, finalement, c'était des bêtises. Je ne savais pas encore que Dieu avait une astuce pour aider les enfants à demeurer en lui, leur administrer des piqûres de rappel régulières. De fait, après cette première conversion, j'allais en vivre bien d'autres. Tout le défi désormais était de trouver ma place dans l'Église. Dans la société en tant que chrétien, diplôme à peine en poche, je me suis vu proposer un boulot de technicien de l'audiovisuel dans le journal télévisé JT de TF1. J'ai accepté. Alors même que j'avais répété à tout le monde que je n'y mettrais jamais les pieds, j'y suis restée 10 ans. La première fois que j'ai visité le plateau de Patrick Poivre d'Arvor, j'étais estomaquée car du jour au lendemain, je me retrouvais derrière l'écran que j'avais regardé toute mon enfance. Je m'y suis vite plu, d'autant que mon côté jeune converti, droit dans ses bottes, suscitait non seulement du respect mais aussi une franche curiosité. Mes collègues me posaient 1000 questions sur le sens du carême par exemple. Les 3/4 du temps, je couvrais des coupes du monde de rugby, de foot, des championnats de Formule 1. Mais Au milieu de tout cela, j'ai vécu la mort de Jean-Paul II, la démission de Benoît XVI et l'élection du pape François. C'était exceptionnel de suivre ces beaux événements en direct. Trouver ma place dans l'église a été bien plus compliqué. D'abord parce que j'étais en décalage par rapport aux jeunes de mon âge, puisque je bossais déjà à 20 ans. Et soyons francs, le milieu catho-parisien est sociologiquement particulier. Pas simple de l'intégrer quand tu arrives de Bayonne et que tes O sonnent un peu comme des A. Heureusement, ma mère avait insisté pour que je m'installe dans un foyer tenu par des religieux. Je m'y suis fait plein d'amis d'horizons divers avec qui je pouvais aller à la messe et en quittant le foyer en 2007, j'ai eu peur de perdre ces belles amitiés. Je me suis dit qu'il fallait créer un truc. Mais quoi ? Je venais de découvrir la figure de Pierre-Georges Frassati. Lorsqu'on m'avait montré sa photo, j'avais ri. Lui, ce mec avec un cigare à la bouche, il a été béatifié. Puis j'avais lu sa vie dans laquelle je m'étais pas mal retrouvée. C'était un bon vivant, un jeune chrétien qui aimait Dieu, ses amis et les bonnes blagues. J'avais noté qu'il récitait fidèlement le chapelet. Alors un soir, j'ai balancé à mon colocataire, pas très pratiquant, « Je vais inviter des gars du foyer pour prier le chapelet. Viens si tu veux. » Quelques jours plus tard, on était une dizaine. Et pendant un an, chaque jeudi, on priait Marie, on dînait, on discutait. C'était le début tout simple de la Frassatim.
L'été suivant, je suis tombée sur une crèche en Playmobil dans le salon de mon ancien aumônier. L'idée de raconter la nativité en mettant en scène des figurines m'a aussitôt démangée. J'ai motivé Côme, un pote de la Frassatim, et ensemble on a conçu Cadichon et la nativité, une série en 11 épisodes que l'on a diffusée du 14 au 25 décembre 2008 sur notre nouvelle chaîne Dailymotion. C'était un énorme boulot, mais on avait envie de se marrer, de partager notre foi sur un ton décalé et sur ce lieu incroyable qui venait à peine d'émerger. Les plateformes en ligne où, tout d'un coup, il était si facile de diffuser des vidéos. Cadichon a plutôt bien marché, avec des buzz à 200 vues. Oui, c'était une autre époque. Fort de ce petit succès, nous avons continué sur notre lancée. Il y a d'abord eu le festival Marial à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire en 2009, chaque soir avant la louange, avec trois amis, nous présentions un JT de 9 minutes avec des sketchs, inspirés des inconnus par exemple, mais qui toujours racontaient quelque chose de profond, car l'objectif de la Frassatim n'a jamais été de rire pour rire, mais pour témoigner. Puis à Noël, sur Dailymotion, nous avons sorti l'émission La Crèche Académie, qui nous a valu un reportage de l'équipe du Jour du Seigneur avec laquelle nous nous sommes alors mis à travailler. Mon nom circulant de plus en plus, j'ai commencé à faire des vidéos de commandes comme le clip de Thomas Pouzin, puis le making-of du CD-DVD de Glorious. J'ai alors rencontré Marie, la chanteuse du groupe, que j'ai eu la joie de retrouver à une mission d'évangélisation d'Annuncio et qui devint bientôt ma femme. Oui, Dieu a de la suite dans les idées. Au JMJ de Madrid en 2011, j'ai pris conscience que l'évangélisation, cette urgence absolue, méritait d'être servie par des vidéos de qualité. Conclusion, la Frassatim devait se professionnaliser. Ni une ni deux, je suis allée chercher des comédiens pros. Et en collaboration avec Annuncio, nous avons monté trois parodies catho de Bref, la mini-série de Canal+. Le deuxième épisode sur la vie spirituelle a été vu plus de 450 000 fois. Mais qui dit équipe et compétences dit argent. Or, la Frassatim était une association. Donc, pour financer les projets, je prenais le maximum de commandes, tout en travaillant à plein temps pour TF1 et en préparant mon mariage. En plus, je recevais des tas de coups de fil d'institutions catholiques me disant « Vos briefs sont géniaux, on veut les mêmes, ça coûte combien ?» J'étais un peu perdue et dépassée. quand le jour du Seigneur m'a demandé d'animer ce qui allait devenir les tablettes de la foi, j'étais truquiste à TF1. Je ne pouvais pas mener les deux de front. Alors, en janvier 2014, j'ai quitté la chaîne et j'ai créé ma boîte de production, Revival. Les commandes n'ont pas tardé à affluer. Tel diocèse ou tel mouvement d'église me sollicitait pour présenter ce qu'il faisait. Rien de plus classique que la communication institutionnelle. Mais mon rêve à moi, c'était de monter des projets créatifs pour parler de Jésus, questionner la foi, provoquer le débat, interroger nos convictions, ouvrir un dialogue, etc. Chaque mois de janvier, ce rêve venait retoquer à la porte de mon esprit. Il est devenu encore plus pressant quand j'ai compris que nombre d'animateurs en pastorale réutilisaient à fond les tablettes de la foi ou d'anciennes vidéos comme brief. Il y avait clairement un besoin qui n'était pas comblé. J'ai fini par céder à ces appels en 2019 en lançant la plateforme Jésus Box. C'est long, c'est dur, ça me sort de ma zone de confort, mais je suis content de ce projet qui démarre bien. Tu ne peux pas échapper à un truc qui te tiraille depuis des années, surtout quand ça vient de Dieu. La foi en VOD, Jésus Box, c'est la première plateforme de vidéo chrétienne à la demande. Tous ceux qui œuvrent à la transmission de la foi, je pense aux responsables d'aumônerie, aux animateurs en pastorale ou dans la préparation au mariage, y trouveront des contenus multimédia, créatifs et pédagogiques, au format très varié, sketch, micro-trottoir, podcast, etc. Je pense l'avoir lancé au bon moment, car avec les plateformes payantes du style Netflix ou Spotify, les gens se sont réhabitués à mettre la main à la poche pour avoir accès à un contenu de qualité. Et de fait, même si j'avance à pas de fourmi, les débuts sont prometteurs. Jésusbox.fr.
Comment l'Église peut-elle se mettre à la vidéo? Les conseils d'Amaru Cazenave. Tout d'abord, il faut se former. Pendant des années, l'Église a dit « la vidéo, non, c'est virtuel ». Puis le Covid-19 est arrivé et elle s'est jetée sur le média qu'elle avait jusque-là boudé. Mais vous n'étiez pas prêts, les amis. Dieu merci, cela s'apprend. Et c'est justement pour aider les prêtres qui peinaient à diffuser leurs messes en direct pendant le confinement que j'ai fait des petites vidéos pédagogiques. À mon sens, le véritable enjeu n'était pas tellement technique, améliorer l'image ou le son. Ce n'est pas très compliqué. Que pastoral ? La vraie question que le prêtre doit se poser n'était pas tant « est-ce que j'ai du bon matos ?» que « est-ce que je parle au cœur de mon troupeau quand je prêche ?» Enfin, il faut partir des besoins. Si demain les paroisses se mettent à créer des chaînes YouTube, leur premier réflexe à coup sûr serait de filmer le curé. Mais non, pitié, arrêtons avec ce cléricalisme. Les paroisses devraient plutôt regarder autour d'elles en se posant la seule question qui vaille : quels sont les besoins du troupeau ? C'est quoi les pauvretés aujourd'hui ? On le sait, le Covid va provoquer une crise économique et sociale effroyable, une envolée du chômage et des divorces. Alors, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons constituer une petite armée de vidéos qui donneront à tous des conseils pour faire face à ces problématiques actuelles. Et si on se lance là-dedans, on pourra peut-être passer du virtuel au présentiel et remplir à nouveau les églises. Je rêverais par exemple d'aller à un mariage où le prêtre dirait à la fin de la messe « On a fait une série de vidéos sur les difficultés dans le couple ». Allez voir sur YouTube. Enfin, il faut savoir parler aux jeunes. Les jeunes passent leur temps à regarder des vidéos sur les écrans. Quand ils arrivent à l'aumônerie, si on leur sert le livret de catéchèse Pierre Vivante, c'est comme si on découvrait Ringarland. Dieu n'est pas resté dans les années 1940, il est en 2020. Alors il faut se bouger et proposer un catéchisme qui parle aux jeunes d'aujourd'hui. Sinon, on va les perdre. Oh.
Voici déjà quelques années qu'Amaru Khazenave est parti à la conquête du continent numérique en mettant sa créativité au service de l'évangélisation. Il raconte son expérience dans un livre enthousiasmant. Lorsque le Covid-19 est arrivé, l'Église s'est jetée sur la vidéo, ce média qu'elle avait rejeté pendant des années, en estimant grosso modo que le virtuel ce n'est pas bien. Et elle s'est mise à mettre du sacramentel sur Internet. Dans cette précipitation, deux problématiques ont été mises à jour. D'abord, un problème de compétence. Les prêtres ont soudain pris conscience qu'ils ne savaient pas faire ou pas bien faire et qu'ils avaient besoin de se former à la vidéo et aux outils numériques. C'est justement pour répondre à leur curiosité technique que j'ai créé des contenus web pédagogiques. Deuxième problème, bien plus fondamental selon moi, sur Internet, tu ne parles pas comme dans la vraie vie. Il y a une adaptation nécessaire du langage, un effort d'attention à poser pour penser à partir, non pas de ce que tu veux dire, mais de ce dont l'auditoire a besoin. L'enjeu véritable n'est donc pas tant technique, améliorer l'image ou le son, cela s'apprend, assez facilement d'ailleurs, que pastoral. La vraie question que le prêtre doit se poser n'est pas tant « est-ce que j'ai le bon matos ?» que « est-ce que je parle au cœur de ma tribu quand je prêche ?» Une chose est certaine, l'Église a manqué de créativité. L'Église que je connais est plus riche que ce qu'elle a donné à voir d'elle durant le confinement, en résumant tout à des messes diffusées en direct. Elle ne peut pas se limiter à une diffusion de rites qui ne parle souvent qu'à quelques initiés. Chrétiens, nous sommes capables de plus et de mieux pour montrer que l'Évangile n'est pas qu'un livre de règles, mais une parole motivante que nous avons expérimentée. Là encore, il faut partir des besoins des gens, des questions qui les tenaillent, pour être en mesure de les rejoindre et de les attirer au Christ. Si nous avons un trésor à apporter au monde, nous ne pouvons pas nous contenter de le déposer aux pieds de nos contemporains sans nous soucier de ce qui les préoccupe intérieurement. En quoi Internet est-il une terre de mission ? On entend toujours que l'Église doit se concentrer sur sa mission auprès des pauvres. Et dans l'imaginaire, le pauvre, c'est le SDF. D'où le rejet de la communication, de YouTube et des outils numériques en général, sous prétexte que ces vecteurs ne servent pas ces pauvres-là. Mais il n'y a pas que la pauvreté matérielle. Sur Internet, des milliers de personnes en situation de précarité affective, psychologique ou spirituelle viennent chercher des réponses à leurs problèmes. Il n'est qu'à observer l'explosion du développement personnel sur la toile pour s'en convaincre. Aujourd'hui encore, l'Église peine à concevoir et à s'approprier ces nouvelles formes de pauvreté sur lesquelles Internet a levé le voile. Or, elle a une très belle carte à jouer sur ce terrain-là. Concrètement, comment une paroisse peut-elle évangéliser en ligne ? Elle devrait d'abord identifier les besoins des gens et donc commencer par interroger son environnement. Quel réconfort cherchent les habitants de mon quartier ? Sont-ils particulièrement touchés par le chômage ou par le deuil, des burn-out, des divorces, des ruptures ? Puis, elle devrait créer des vidéos, des parcours en ligne qui donneraient des conseils pour faire face à ces problématiques précises et actuelles. Prenons le chômage. Une bonne vidéo n'aidera pas cette personne sans travail à en décrocher un, évidemment. En revanche, elle pourra l'aider à poser une réflexion sur ce qu'elle est en train de vivre, à retrouver confiance en elle, à rebondir. Parce qu'il aura trouvé du grain à moudre dans cette vidéo, parce qu'il se sera senti rejoint, compris, accompagné, alors peut-être ce chômeur aura-t-il envie de passer du virtuel au présentiel, en poussant la porte d'une église. En étant présent sur le web, nous pouvons permettre à nos contemporains de faire un premier pas vers l'église. Qu'est-ce qu'une bonne vidéo ? C'est d'abord une bonne écriture, donc des compétences à acquérir, des efforts, de la persévérance. Du travail, quoi. N'ayons pas peur de nous former, de nous entourer de professionnels. Dans mon livre « L'Église a besoin de créatifs », qui est le fruit de mon expérience, je distingue 7 moteurs pour développer sa créativité. démarrer, sortir de sa zone de confort, faire et améliorer après, être curieux, ne pas se décourager, se détacher de ce que l'on crée et ne pas attendre l'inspiration pour créer. Il est aussi un écueil à éviter absolument. Rester hors sol. Tu es créatif à partir du moment où tu ne t'éloignes pas du problème auquel tu veux répondre, où tu te rapproches des gens qui vivent la situation que tu traites. Il faut aller au contact pour trouver la bonne approche, les bons ressorts, le vocabulaire percutant. C'est une histoire d'incarnation, finalement. Latin, nous avons tendance à être dans la pédagogie. Viens, je vais t'expliquer le pardon en 3 points, et tu vas saisir pourquoi c'est important. Mais tout le monde n'est pas touché par des explications. Pour comprendre quelque chose, il n'y a rien de tel que d'en faire l'expérience par le biais des émotions. Elles sont un gros moteur dont il ne faut pas avoir peur. Dans une vidéo, mieux vaut donc raconter qu'expliquer, donner à expérimenter que prouver que par A plus B. Je relis incarnation et créativité. Par son incarnation, Dieu a choisi un moyen radical de nous parler, de se manifester au monde, et notre tribu a la chance et le devoir de continuer à manifester Dieu par sa créativité. Quelle chance, en effet, de pouvoir dessiner Jésus, de le mettre en image et en scène. Cela ouvre un champ de possibles infini pour les créatifs que nous sommes tous en puissance. Et Internet est un formidable terrain de jeu. Ne le désertons pas. Amis auditrices, amis auditeurs, merci encore pour votre écoute fidèle. À très bientôt pour un prochain rendez-vous de Peuple du Monde.